Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Mettez-vous à l'aise et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence comme il se doit avec ce que vous devez savoir de l'actualité de ce mardi 14 décembre avec le premier journal de la soirée, celui de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec une facture.
Une facture d'énergie qui grimpe de plusieurs dizaines d'euros pour les Français. 40 euros de plus en moyenne sur un mois depuis un an. Surtout à cause de l'augmentation de l'essence, des chiffres sortis d'une note de l'INSEE révélée ce soir. Les détails dans un instant. Le variant Omicron se propage à une vitesse inédite dans le monde, mais le Pfizer semble relativement efficace pour lutter contre les formes graves. Décryptage du service santé à suivre. À suivre également la magistrature sur le pied de guerre avant une mobilisation historique demain. Aujourd'hui se tenaient en parallèle les états généraux de la justice avec des citoyens. Nous y étions. Un coup de massue pour l'opposition au Biélorusse. Le mari de Svetlana Tikhanovskaya qui écope de 18 ans de prison. Les animateurs scolaires dans la rue pour réclamer plus de reconnaissance. Et pour finir, le champion olympique Martin Fourcade défavorable à un boycott diplomatique des JO de Pékin.
À 18h15, un jour dans le monde, alors qu'on attend un nouveau verdict contre Aung San Suu Kyi en Birmanie, procès de pacotille, mais qui parle aussi de ce coup d'état raté de la part de la junte birmane, une situation chaotique, une population réprimée mais qui n'a rien lâché 10 mois après le coup d'état. Nous y viendrons. 19h20, c'est le téléphone sonne et cette question, êtes-vous devenu un salarié exigeant? Est-ce que les confinements successifs vous font monter les enchères avec votre entreprise? On parle salaire, bien sûr, mais pas seulement. On parle aussi conditions de travail. Il faut séduire les salariés pour les attirer. Eux ne veulent pas travailler dans n'importe quelles conditions. C'est une leçon du confinement. Et c'est le téléphone sonne aussi au 01 45 24 7000.
France Inter.
Donc, vous le disiez, Sébastien, on le sentait depuis quelques mois, mais les chiffres de l'INSEE le confirment.
L'Institut National de la Statistique qui sort une note de conjoncture à l'instant en partie consacrée à la hausse des prix de l'énergie depuis un an. Résultat, les ménages français payent beaucoup plus cher leur facture d'énergie, 40 euros de plus en moyenne sur un mois par rapport à l'an dernier. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Dans le détail, c'est l'essence qui fait exploser le budget.
Oui, c'est la moitié de cette hausse qui est donc dû à la flambée des prix du pétrole. Depuis un an, les carburants augmentent dans cette facture moyenne de 8 euros, le gaz de 14 et le fioul de 2 euros. Une augmentation de 40 euros donc depuis un an. Elle est particulièrement forte car on partait de très bas en raison des reconfinements et d'une économie mondiale à l'arrêt. Les prix du pétrole étaient en octobre de l'an dernier très bon marché. Si on fait la comparaison avec l'automne 2019, c'est-à-dire la période d'avant la crise sanitaire, eh bien le surcoût d'énergie est de 30 euros en moyenne seulement, on pourrait dire. Quant à l'électricité, elle augmente sur un rythme à peu près comparable aux années précédentes, plus 3% environ.
40 euros donc de plus sur la facture, c'est une moyenne, tout le monde n'est pas touché de la même façon, Delphine.
Oui, si on revient donc à ces 30 euros par rapport à il y a 2 ans, c'est donc une moyenne. Cette hausse des prix de l'énergie, elle pèse différemment sur les ménages en fonction de leurs revenus et de l'endroit où ils habitent. Avec la flambée des prix depuis 2 ans, un ménage très modeste, estime l'INSEE, dépense 19 euros de plus. Un ménage très aisé, 45 euros de plus. En agglomération parisienne, l'augmentation est moindre qu'à la campagne. 27 euros contre 33 euros dans une commune rurale où les carburants pèsent 12 euros de plus. Une situation de prix élevé qui devrait persister au moins jusqu'à l'été, prévoit l'INSEE, même si les cours du pétrole ont tendance à marquer le pas en cette fin d'année.
Delphine Simon, le service économie de France Inter. Puis ajoutons que l'INSEE prévoit une hausse du SMIC de 0,9% au 1er janvier prochain, hors potentiel coup de pouce.
Des nouvelles encourageantes sur le front du vaccin Pfizer.
L'un des vaccins les plus utilisés dans le monde face au Covid. Depuis l'arrivée d'Omicron, les experts craignaient une moins bonne réponse du sérum face avec ce variant. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Une étude réalisée en Afrique du Sud montre qu'il serait finalement plutôt efficace contre les formes graves avec une réduction de 70% des risques d'hospitalisation.
Oui, l'étude a été menée par Discovery, la première assurance privée d'Afrique du Sud. Les chercheurs ont travaillé sur 78 000 tests PCR obtenus entre mi-novembre et début décembre. Ce sont les premières données en population dont on dispose. On apprend donc que le vaccin est efficace à 70% sur les hospitalisations. Efficacité aussi sur la gravité des cas, ça veut dire moins de cas de détresse respiratoire. Ces résultats sont préliminaires, insistent les chercheurs. peur, mais c'est un signe d'espoir. En effet, le variant Omicron présente de très nombreuses mutations, bien plus que le variant Delta. La grande interrogation, c'est donc de savoir si nos vaccins sont toujours valables. Sur les cas graves, ça semble se confirmer. En revanche, très peu d'effets, visiblement, sur la transmission. Une double dose de Pfizer ne serait efficace qu'à 33% sur les contaminations Omicron. À noter également les taux de réinfection qui sont particulièrement élevés. Les différents laboratoires travaillent activement au développement de vaccins adaptés à cette mutation. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'Omicron se propage à un rythme jamais vu avec aucun autre variant.
Alice Cachaner du service santé. Et puis malgré ces bonnes nouvelles, le variant Omicron pourrait connaître une croissance rapide en France selon le dernier avis du Conseil scientifique qui chiffre à 2350 le nombre d'admissions potentielles à l'hôpital par jour en fin d'année. La France qui dispose suffisamment de doses de vaccins pour tout le monde, 27 millions de doses en stock selon le gouvernement, nous ferons 20 millions de rappels avant Noël, a déclaré cet après-midi Olivier Véran devant les députés. C'est une manifestation qui s'annonce historique dans le monde de la justice. Après une tribune inédite signée par deux tiers des magistrats où ils exprimaient leur mal-être, ce sont toutes les professions, toutes les organisations syndicales qui appellent demain à une journée nationale de mobilisation. Magistrats, greffiers, avocats rassemblés sous une même bannière dans toute la France, avec en point d'orgue une manifestation à Paris sous les fenêtres de Bercy pour réclamer des moyens dignes pour la justice. Cette mobilisation historique intervient au moment même où se déroulent par ailleurs les états généraux de la justice, une grande concertation depuis deux mois censée mêler les professionnels de la justice aux citoyens. Se tenait ce matin à Paris le second atelier délibératif, une quarantaine de citoyens sélectionnés pour débattre et formuler des recommandations. C'est le reportage de Laurélie Carive.
Ils sont étudiants, retraités, géomètres, plombiers, assistants de direction. Répartis en petits groupes et épaulés par une poignée d'experts, ils planchent sur de grandes thématiques. Comment rendre la justice plus compréhensible, plus efficace, plus protectrice, plus à l'écoute aussi.
Ça c'est le troisième point, hein, parce que sinon on ne va pas tout mélanger.
Il faut une justice plus humaine qui accompagne.
Alors prévenu dans le civil, ça ne s'appelle pas un prévenu, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Après une carrière dans les ressources humaines, Céline est aujourd'hui traiteur à Toulouse.
Mon objectif c'est de participer à un débat citoyen, confronter mes idées et de chercher quelque part une trajectoire pour faire évoluer cette administration qui est un peu poussiéreuse.
Au final, cela donne 18 recommandations, parmi lesquelles on peut citer la création d'une matière à part entière à l'école qui permettrait d'enseigner aux collégiens le fonctionnement de la justice, la désignation de porte-parole dans les juridictions pour expliquer les décisions. L'accent est également mis sur un meilleur accompagnement des victimes, des débats qui n'ont fait que conforter Benjamin de Paris dans ses convictions. Il préside le tribunal judiciaire d'Evry.
Finalement, les constats sont très intéressants parce qu'ils rejoignent les nôtres. Et c'est en ce sens que les citoyens peuvent nous servir de levier pour moderniser notre justice, parce qu'ils font tous le même constat, hein, qu'elle est un peu opaque, elle est compliquée à comprendre, elle manque manifestement de moyens.
Ces recommandations seront transmises dans les heures qui viennent au comité des états généraux de la justice.
À noter que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sera demain l'invité du grand entretien à 8h20 de Nicolas Demorand et de Léa Salamé. L'actualité judiciaire encore avec Alexandre Benalla et son épouse, placée en garde à vue ce matin dans une enquête pour corruption. L'affaire dite des contrats russes. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire dans un contrat passé entre son ami Vincent Kras et un oligarque russe, alors qu'Alexandre Benalla était toujours en poste à l'Élysée. La grande mosquée de Beauvais menacée de fermeture par le ministre de l'Intérieur. Une mosquée soupçonnée d'appeler au djihad et à des propos homophobes et antisémites. Un accident grave de taxi en Tesla à Paris samedi soir dernier. Dans le 13e arrondissement, un taxi Tesla modèle 3 de la compagnie G7 a perdu le contrôle de son véhicule, provoquant 7 blessés en urgence absolue. La compagnie a mis à l'arrêt tous ses taxis Tesla, environ 37 chauffeurs concernés.
C'était l'opposant le plus menaçant pour Alexandre Loukachenko, le président biélorusse.
Sergueï Tikhanovski, youtubeur très populaire en Biélorussie, ennemi politique numéro 1 qui projetait de se présenter au présidentiel. Il est désormais derrière les barreaux pour des années, condamné aujourd'hui à 18 ans de prison pour trouble à l'ordre public lors d'un simulacre de procès. Sa femme, Svetlana Tikhanovskaya, désormais figure de proue de l'opposition en exil, parle ce soir d'une vengeance du pouvoir. Claude Guibal.
Le monde nous regarde, nous ne nous arrêterons pas. Le message est clair, rien ne lui fera baisser les bras à Svetlana Tikhanovskaya, pas même la terrible condamnation de son mari Sergueï. Une peine colossale, 18 ans de prison, des chefs d'accusation écrasants, incitation à la haine sociale, trouble à l'ordre public, obstruction à la commission électorale, d'autres très lourdes peines de prison non ont été prononcés à l'encontre de ses co-accusés, eux aussi de farouches opposants d'Alexander Loukachenko, le président biélorusse, allié de Vladimir Poutine, Loukachenko dont la répression vengeresse semble sans limite. Un procès à huis clos sur lequel la défense n'a pas eu le droit de s'exprimer sous peine de ne plus avoir le droit d'exercer. Une chape de plomb et de terreur sur la Biélorussie face à laquelle le couple formé par Svetlana et Sergueï Tikhanovski refuse de céder. C'est pour reprendre le flambeau de ce mari, virulent opposant arrêté alors qu'il allait se présenter à la présidentielle l'an dernier, que la jeune femme était à son tour entrée dans la contestation. Il y aurait aujourd'hui en Biélorussie plus de 900 prisonniers politiques.
Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France. Dans l'actualité étrangère encore, un terrible drame en Haïti aujourd'hui. L'explosion d'un camion citerne à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, a provoqué la mort d'au moins 60 personnes. Le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Des habitants se seraient ensuite précipités vers le camion avant son explosion pour récupérer le carburant dont les habitants manquent cruellement depuis des mois.
Un atelier de fabrication de fausses cigarettes démantelé en Seine-et-Marne.
C'est une première en France. Les services de la douane ont retrouvé dans la commune de Poincy une véritable usine clandestine et plus de 76 kilos de tabac brut. Les précisions de Margot Steve.
C'est en fouillant un local après des soupçons de la police que les agents de la douane ont découvert cet atelier clandestin. À l'intérieur de cet immense hangar, il y avait tout ce qu'il faut pour fabriquer de fausses cigarettes, des sacs de tabac brut, mais aussi des machines pour brasser, broyer, emballer. Ils ont aussi retrouvé de faux paquets identiques à ceux vendus dans le commerce. Les trafiquants avaient même pris le soin d'y mettre le message « Fumez-tu », les photos d'avertissement, un code barre et la marque Marlboro. Tout ce matériel a été saisi et confisqué. Deux personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire pour fabrication de tabac et détention de marchandises illégales en bande organisée. Ce genre d'atelier clandestin a déjà été démantelé à l'étranger, notamment en Europe de l'Est, mais c'est la première fois que les autorités en découvrent un sur le territoire français.
Margot Steve, ils se sentent les oubliés du système scolaire. Les animateurs scolaires ont fait grève aujourd'hui un peu partout en France. Pas de cantine aujourd'hui, peut-être pas de centre de loisirs. Demain, pour certains d'entre vous, une centaine d'animateurs sociaux étaient dans la rue ce matin à Orléans, par exemple. Ils réclament une meilleure reconnaissance salariale et dénoncent les sous-effectifs, comme Amandine qui travaille dans une école élémentaire de Saran, près d'Orléans.
Tout le monde croit que l'animation, c'est de la garderie, qu'on passe notre temps à jouer avec les enfants et que c'est génial. Oui, c'est génial, mais c'est pas que ça. On fait des projets pédagogiques, on s'inscrit dans des orientations de la ville, on rend des écrits sur tout ça, on a des demandes qui sont faites auxquelles faut répondre. Et quand on a des taux d'encadrement énormes et du personnel non remplacé, bah on va prioriser bien évidemment la sécurité du public au détriment de la qualité de l'animation. On a des enfants qui en ont ras-le-bol parce qu'on va leur dire qu'on fait un projet, au dernier moment on va l'annuler parce que le personnel n'est pas là, parce que ceci, cela. C'est du au jour le jour à rebondir, à courir dans tous les sens et on n'en peut plus. Et puis nous on est frustrés parce que moi la première, hein, clairement, l'année dernière, je pense que le Covid aussi a remis beaucoup en question. Je me suis dit je change. Et en fait je me suis dit non, j'aime mon métier. Donc en fait je me bats pour mon métier mais je reste. Pourquoi changer alors que j'aime ça? C'est juste les conditions de travail qui sont plus possibles. Et le manque de reconnaissance professionnelle aussi. On est vraiment dans l'ombre de tout et de tout le monde.
Amandine, animatrice scolaire au micro de France Bleu Orléans.
Et Sébastien, on termine avec une parole très écoutée dans le monde du sport.
Celle de Martin Fourcade qui, pour la première fois, s'exprime sur les JO de Pékin dans deux mois et les hésitations de certains pays, notamment de la France, à boycotter diplomatiquement cet événement sportif au nom des droits de l'homme, comme l'ont fait déjà les États-Unis. Pour sa part, l'athlète français le plus titré aux Jeux Olympiques se dit opposé à une démarche politique portée par les sportifs.
Si on regarde d'un point de vue athlète de neige, c'est des jeux qui transcendent personne et qui risquent d'être étranges à vivre. Je pense qu'il n'y a aucun athlète qui est enchanté par cette situation. Je trouve que ce n'est pas aux athlètes de porter toutes les responsabilités. Et c'est compliqué pour moi de rejeter la faute sur le mouvement sportif alors qu'en fait, dans tous les axes de la société, que ce soit économiquement, vous avez des téléphones, il y a combien qu'un iPhone qui est fabriqué en Chine. Donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bien de demander aux sportifs de porter des valeurs, mais en tant que société, il faut aussi se regarder collectivement et se dire, ok, je demande à des gens de faire des choses sur des compétitions où ils ont dédié 4 ans de leur vie, certes, qui représentent beaucoup en termes de valeurs et où il doit y avoir un aspect image qui est important, mais je pense que Si la seule interaction qu'on avait avec la Chine, c'était les Jeux Olympiques d'hiver, ça se saurait. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Martin Fourcade, de micro de Jérôme Val, le quintuple champion olympique qui s'exprimait depuis les étoiles du sport à Tignes.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Sébastien Lowe, génie, c'est vous. À tout de suite, Sébastien, dans Un jour dans le monde. Vous revenez dans Sous les radars. Vous nous parlerez notamment d'une première européenne. C'est à Malte qu'on la doit. Ce soir, nous promenons des nouvelles de la Birmanie, 10 mois après le coup d'État. Une nouvelle condamnation à suivre également bientôt pour Aung San Suu Kyi. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On parle ce soir de vos exigences de salariés. Les entreprises peinent à embaucher, ça on le sait. Les salariés aujourd'hui ne sont plus d'accord pour ne pas compter leurs heures. Ils ont changé leur mode de vie avec les confinements. Ils entendent que l'entreprise suive, le salaire ça compte. Mais ce sont des conditions de travail meilleures que l'on veut aujourd'hui. Les patrons sont bien obligés de suivre. Racontez-nous vos expériences des deux côtés de la barrière. Ça se passe au 01 45 24 7000.